Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 22 mai 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Sud-Liban, manœuvre militaire du Hezbollah. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'ambassadrice suisse à Téhéran a été convoquée par la diplomatie iranienne pour l'ingérence de son pays dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran. Trois jeunes Palestiniens ont été tués en martyr lors d'un raid israélien contre un camp de réfugiés en Cisjordanie. Et en Mauritanie, le deuxième tour des élections est prévu le 27 mai. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadrice suisse à Téhéran, Nadine Olivieri Lozano, pour l'ingérence de son pays dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran. L'ambassadrice Lozano avait été convoquée au motif que la Suisse avait fait un usage non conventionnel et non professionnel de son ambassade à Téhéran en republiant une photo avec un faux drapeau, a déclaré le ministère dans un communiqué publié dimanche 21 mai. Dans un post Twitter vendredi, l'ambassade suisse a condamné la récente exécution de trois hommes reconnus coupables d'avoir lancé une attaque terroriste meurtrière contre les forces de sécurité à Isparan lors des émeutes de 2022, soutenues par l'étranger. La mission avait également appelé la République islamique d'Iran à arrêter les exécutions. Elle a également publié une photo d'un rassemblement de groupes anti-révolution islamique avec un faux drapeau iranien. Le ministère iranien des Affaires étrangères a transmis à la diplomatie suisse le niveau d'insatisfaction de la République islamique face à une telle attitude qu'il juge non compatible avec les relations amicales qu'entretiennent l'Iran et la Suisse. L'ambassadrice s'est engagée à transmettre la protestation de l'Iran à la Suisse. Les forces de renseignement iraniennes ont identifié et arrêté les membres d'un groupe terroriste affilié à l'agence d'espionnage israélienne Mossad dans l'ouest du pays, a déclaré le ministre du renseignement Ismail Khatib. Lors d'une cérémonie dimanche 21 mai dans la capitale Téhéran, Khatib a déclaré que les terroristes s'étaient faufilés à travers la frontière vers l'ouest de l'Iran depuis la région semi-autonome du Kurdistan irakien. Compte tenu de la coopération de la nouvelle administration irakienne, dirigée par le Premier ministre Mohammad Shia al-Soudani, et des assurances offertes, nous souhaitons voir nos frontières occidentales sécurisées et exemptes de tout incident de sécurité, a-t-il indiqué. Nous rappelons au gouvernement régional du Kurdistan, GRK, ses responsabilités à cet égard, a-t-il dit. Khatib a clairement affirmé que les forces militaires et de sécurité iraniennes n'hésiteraient pas à apporter une réponse puissante et écrasante à tout acte déstabilisant contre les régions frontalières du pays. Plus tôt cette semaine, les forces de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique ont démantelé un réseau terroriste affilié à Daesh Khorasan dans la province du Fars, dans le sud de l'Iran. les forces israéliennes ont tué en martyr 3 jeunes Palestiniens lors d'un raid sur un camp de réfugiés près de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'assaut a été lancé très tôt lundi 22 mai contre le camp de réfugiés de Balata, à l'est de la ville de Naplouse. Le ministère palestinien de la Santé a identifié les 3 jeunes hommes, Mohamed Bilal Mohamed Zaitoun, 32 ans, Abdullah Youssef Mohamed Abou Hamdan, 24 ans, et Fatih Jihad Abdoussalam Rizr, 30 ans. Selon des sources locales, après avoir tué ces jeunes et blessé plusieurs autres, les forces du régime sioniste ont bloqué l'entrée du camp, empêchant les ambulances et le personnel médical d'atteindre les blessés. Un nombre indéterminé de Palestiniens ont été blessés lors de ce raid sur le camp de réfugiés, certains d'entre eux grièvement. Les forces israéliennes, qui étaient accompagnées de 2 bulldozers militaires, ont par ailleurs encerclé le camp, bloqué tous les points d'entrée et démoli 3 maisons. Au cours des derniers mois, Israël a intensifié ses attaques contre des villes palestiniennes dans l'ensemble des territoires occupés. À la suite de ces attaques, des dizaines de Palestiniens ont perdu la vie et de nombreux autres ont été arrêtés. La plupart des attaques ont visé les villes de Naplouse et de Jenin en Cisjordanie occupée, où les forces du régime tentent d'étouffer une résistance palestinienne croissante contre l'occupation. L'un des objectifs des raids israéliens sur divers endroits de la Cisjordanie a été de raser les structures qui appartiennent aux Palestiniens, que le régime accuse d'avoir tué des colons israéliens. Balata a également fait l'objet d'un assaut au début du mois de mai, au cours duquel les forces israéliennes ont tué 2 jeunes Palestiniens et en ont blessé au moins 7 autres. Cette année, les forces du régime ont tué des dizaines de Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza assiégée. Des dizaines de morts ont été causées après que le régime a lancé une série de frappes aériennes consécutives contre Gaza le 9 mai. Le conflit a marqué le pire épisode de combat entre les factions de la résistance de Gaza et le régime israélien depuis une guerre de 10 jours imposée par Tel Aviv en 2021. À l'appel des syndicats, des manifestants français ont lancé une effigie du président Emmanuel Macron en l'air alors qu'il marchait vers Cannes dimanche lors d'une manifestation contre la réforme de la loi sur les retraites. Des policiers ont bloqué les routes menant au centre-ville de Cannes, la ville de la Côte d'Azur ayant interdit les manifestations près du festival du film en cours. La France est le théâtre de grèves et de manifestations depuis 10 mois, principalement à cause de la loi de réforme des retraites du président Emmanuel Macron, qu'il a adoptée le mois dernier en utilisant les pouvoirs constitutionnels pour contourner l'opposition au Parlement. La réforme des retraites vise à relever l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans contre 62 ans aujourd'hui en France. La manifestation était organisée par des membres des syndicats CGT Solidaire, FSU et UNSA. Les membres ont appelé à une autre manifestation où ils doivent marcher vers le palais de festival. La Russie a une fois de plus mis en garde l'Occident contre l'envoi d'avions de combat F-16 à Kiev, affirmant qu'une telle décision soulèverait la question de l'implication directe de l'OTAN dans la guerre. Les remarques de lundi matin de l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, ont été publiées sur la chaîne Telegram de l'ambassade de Russie. Il n'y a pas d'infrastructure pour le fonctionnement du F-16 en Ukraine et le nombre nécessaire de pilotes et de personnel de maintenance n'est pas là non plus, a-t-il déclaré, ajoutant. Que se passera-t-il si les chasseurs américains décollent des aérodromes de l'OTAN, contrôlés par des volontaires étrangers? L'ambassadeur de Moscou a également averti les partisans occidentaux de Kiev que toute frappe des forces ukrainiennes sur la péninsule de Crimée, qui a rejoint la Russie par un référendum en 2014, serait considérée comme une frappe sur le sol russe. Il est important que les États-Unis soient pleinement conscients de la réponse russe, a souligné Antonov. Ces déclarations ont été faites après que vendredi, les États-Unis ont donné leur feu vert à des alliés désireux de fournir à l'Ukraine des avions de chasse F-16. En Mauritanie, le parti présidentiel a raflé la mise lors des élections législatives et locales du 13 mai dernier. Il a obtenu 80 sièges de députés sur 176, score renforcé par les 36 autres sièges remportés par ses alliés. Les résultats provisoires ont été publiés dimanche 21 mai par la Commission électorale nationale indépendante du pays. Le taux de participation est de 71,8%. Pour les élections législatives, les résultats de 40 circonscriptions sont connus dans les 22 autres. Un second tour est attendu, a déclaré Daoud Abdeljalil, président de la CENI. Le deuxième tour est prévu le 27 de ce mois. Concernant les élections locales, le parti El-Insaf du président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a également les 13 conseils régionaux en jeu et gagne dans 65 communes sur 238. Alors que l'opposition mauritanienne, qui n'a obtenu que de 24 sièges de députés au premier tour, de 9 pour sa principale formation, le mouvement Tivassoul dénonce des fraudes. Des irrégularités dans le fonctionnement de la commission électorale ont été également dénoncées par une dizaine des partis de la majorité présidentielle. Ces formations réclament la reprise du vote dans tout le pays, mais pas sûr que la CENI donnera suite à cette requête. Elle, qui a salué dimanche la participation massive du peuple mauritanien dans le calme et la discipline lors du vote. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Sud Liban, manœuvre militaire du Hezbollah. Il y a 23 ans, les troupes du régime d'occupation sioniste se retiraient du Liban Sud après des années de conflits incessants. En effet, le premier ministre israélien de l'époque, Ehud Barak, annonce le 23 mai 2000 le retrait de ses troupes. Le 25 mai, le Liban Sud est totalement libéré. Depuis, le 25 mai, est au Liban un jour férié célébrant la journée de la résistance et de la libération. À l'occasion du 23e anniversaire de la libération du sud du Liban, le Hezbollah a organisé dimanche 21 mai une manœuvre militaire d'envergure dans l'un des camps de la résistance, plus précisément près du site touristique de Mlita avec la participation des chars, d'unités de missiles et de l'infanterie. Le Hezbollah a invité tous les médias qui souhaitent visiter l'un des camps de résistance du Sud à l'occasion de la journée de la résistance et de la libération et participer à une manœuvre militaire qui témoigne de la volonté de la résistance à défendre le Liban. Aussi a élargi le Hezbollah l'éventail des invitations pour que les camps de cette manœuvre soient plus grands. Outre les médias locaux, un grand nombre de journalistes travaillant pour des agences de presse étrangères, bien connues ainsi que des journalistes américains, étaient invités à couvrir l'événement. Le responsable des relations médiatiques du Hezbollah, Mohamed Afif, a déclaré que la manœuvre constituait un rappel de l'exploit historique réalisé par la résistance en libérant la majeure partie des territoires libanais grâce à l'accumulation des sacrifices qui ont porté leurs fruits le 25 mai 2000 avec la défaite de l'occupation et son retrait du sud Liban. La résistance est pleinement prête à repousser toute agression, à y riposter et aucun développement ne pourra la distraire de jouer ce rôle et par conséquent, l'ennemi ne doit pas se tromper dans ses calculs avec le Liban, a fait remarquer le responsable libanais. Herzi Halevi, chef d'état-major de l'armée israélienne, a déclaré lors d'une réunion récente du commandement du front nord de l'armée au sujet du Hezbollah libanais et de la préparation à un éventuel conflit à l'avenir que, comparé aux méthodes utilisées par l'armée lors de la récente lutte contre Gaza, la mise en œuvre de toutes ces méthodes dans une guerre contre le Hezbollah libanais ne sera jamais possible. Le site internet Voilà, citant des sources du commandement du front nord de l'armée israélienne, a indiqué que la réunion précitée s'est tenue dans le but d'examiner plus en profondeur les forces spéciales du Hezbollah, y compris les unités d'élite, unité Radwan, de ce parti et d'étudier l'état de préparation du Hezbollah à une guerre majeure contre le régime sioniste. Le commandement du front nord de l'armée israélienne a également évoqué les diverses activités du Hezbollah dans les situations d'urgence et de routine, le renforcement de ses forces le long de la frontière au sud Liban, l'établissement de fortifications et de positions militaires dans les villages, le transport de munitions vers la zone frontalière et la réponse requise des brigades régulières et de réserves de l'armée israélienne. l'armée israélienne a discuté de la nécessité urgente de recruter des réservistes, de maintenir la pleine efficacité opérationnelle des forces et de se préparer à une manœuvre terrestre d'envergure en territoires occupés sous des attaques simulées de missiles anti-chars et de mortiers sur le front intérieur d'Israël.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le président syrien Bachar Assad s'est rendu en Arabie Saoudite pour participer à la Ligue arabe, invité justement par les responsables de l'Arabie Saoudite qui préside la Ligue arabe après l'Algérie, bien sûr. Alors, c'est une première après une décennie de guerre, d'isolement et de sanctions. Et naturellement, beaucoup de pays, dont les États-Unis, voient cette visite d'un très mauvais œil et ne souhaitent naturellement pas le rapprochement de la Syrie avec des pays arabes. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une nouvelle ère dans la région? Nous allons voir et répondre à ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le journal syrien Al-Watan a rapporté ce soir jeudi que l'avion transportant le président syrien Bachar Assad venait d'atterrir à l'aéroport international Roi Abdelaziz de Jeddah. Le président syrien s'est rendu en Arabie Saoudite pour participer à la réunion des dirigeants de la Ligue arabe sur invitation du roi Salman Ben Abdelaziz. La participation d'Assad à cette réunion est une première après plus d'une décennie de guerre, de sanctions et d'isolement de la Syrie. Le 7 mai, lors d'une réunion extraordinaire, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont annoncé leur décision de lever la suspension de l'adhésion de Damas à cette instance régionale qu'est la Ligue arabe régionale. Et c'est dès ce jour que les journaux du monde entier se référant à des responsables diplomatiques de différents pays arabes ont prédit que le président syrien allait participer au prochain sommet de la Ligue. Le 17 mai, une séance a réuni les ministres des Affaires étrangères de la Ligue qui ont quasi tous salué le retour de la Syrie. Si dès le 7 mai, les journaux du monde entier disaient qu'Assad allait assister au prochain sommet de la Ligue, c'est jeudi qu'Ayman Souzan, le ministre adjoint des Affaires étrangères de la Syrie, a confirmé la nouvelle tant attendue. Et le président Assad vient d'arriver à Jeddah. Ayman Souzan avait évidemment pris part à la réunion du 17 mai. Le sommet 2023 de la Ligue arabe marquera donc la réadmission de la Syrie au sein de l'instance régionale qui compte 22 membres. L'Algérie a cédé la présidence tournante de ce 32e sommet à l'Arabie Saoudite.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités en commençant par Arnaud Develay, expert de questions internationales qui a accepté notre invitation depuis Moscou. Monsieur Develay, bonjour.
Oui, bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Bien, alors ma première question va s'adresser à vous avant de joindre l'autre, donc, expert des questions internationales. Monsieur Develay, l'Arabie Saoudite, qui préside la Ligue arabe, a invité le président Bachar Assad à participer à la Ligue arabe. Il y a 2 ans, ou même 1 an, cette chose était inconcevable. Que pensez-vous?
Oui, effectivement, il y a encore 1 an, ce fut inconcevable. Il y avait eu des rumeurs que ce retour s'opérerait alors que l'Algérie présidait la Ligue arabe, donc l'année dernière à Alger, en mars 2022. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est qu'entre-temps, nous avons assisté à des développements régionaux absolument sans précédent, avec sous l'égide l'égide de la Chine une grande réconciliation entre la République islamique d'Iran et le Royaume d'Arabie saoudite. Et partant de là, on peut penser que cette réconciliation a joué un rôle significatif dans le sens où il y a eu des répercussions presque quasi immédiates sur le processus diplomatique menant à, on l'espère, une sortie de crise au Yémen. Mais surtout, et encore la résolution des relations diplomatiques entre Damas et l'Arabie saoudite. Et ça, c'était vraiment, on en avait entendu des rumeurs, mais c'était assez remarquable de voir le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite venir à Damas et annoncer ensuite la résolution prochaine des relations bilatérales diplomatiques entre les deux pays. Et dans la foulée, l'annonce que la République arabe syrienne retrouverait sa place au sein du groupe régional, bien que pour la Syrie, c'est la Ligue arabe qui a quitté la Syrie, non pas l'inverse, hein, pour le préciser. J'ajouterais à cela qu'il y a presque un an, jour pour jour, à Jeddah, se tenait un sommet un peu dans le contexte de ce qui restait des vestiges d'une tentative d'isoler l'Iran, où le secrétaire d'État américain Blinken s'était présenté pour essayer de raviver sa stratégie des accords d'Abraham et qu'il s'était fait opposer une fin de non-recevoir par les pays de la région, laissant entendre que plus que jamais, la région n'avait pas besoin de conflits supplémentaires. Et ça avait déjà été un avertissement pour l'administration Biden. Et là, je dois dire qu'avec cet accueil triomphal réservé à Bachar el-Assad, à Jeddah, on dit que même le Qatar, l'émir du Qatar, s'est entretenu en privé sur comment dire, le sideline hein, du sommet après l'arrivée du président syrien. Donc, on peut penser que les choses vont peut-être aussi se réconcilier de ce côté-là. Après tout, le Qatar est le seul pays plus ou moins explicitement manifeste. Au travers de ce triomphe de Bachar el-Assad, ça marque vraiment officiellement la fin de cette guerre hybride atroce et sanguinaire livrée, menée à l'encontre du peuple syrien depuis maintenant 12 ans. Et que plus que jamais, les États-Unis maintenant sont isolés. Et que ça va devenir de plus en plus difficile pour eux de justifier non seulement leur présence illégale dans le nord-est syrien, mais l'accaparement des ressources naturelles dont le pays a besoin pour pouvoir se rétablir et...
Absolument. Arnaud de Volet, toujours à vous. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis? Car après une décennie de guerre, de massacres, d'isolement et de sanctions à l'encontre du peuple syrien et du pays, qu'est-ce qui a changé d'un coup que des pays tels que l'Arabie saoudite, qui préside la Ligue arabe, décident donc d'inviter le président Bachar Assad à cette réunion, une réunion extrêmement importante juste pour l'avenir de la Ligue arabe? Bon, malheureusement, notre liaison avec Arnaud de Volet a été coupée. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour.
Bonjour, monsieur. Toujours heureux de vous retrouver.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, monsieur Luc Michel, et qu'est-ce qui a changé d'un coup que l'Arabie saoudite décide, qui préside la Ligue arabe, décide d'inviter le président Bachar Assad? Est-ce que c'est une nouvelle ère ou ça a été commandité par certains pays? Qu'est-ce qui se cache derrière cette invitation, à votre avis?
Ben écoutez, il y a eu une révolution géopolitique qui est due à l'opération spéciale en Ukraine. Les Saoudiens, mais aussi les Émiratis et les Qataris, sont en train de quitter la sphère d'influence américaine et à se rapprocher du bloc de l'Est. Il est donc logique qu'ils se tournent vers le principal allié de la Russie dans ce caractère, la Syrie de Bachar au Moyen-Orient et également à l'Iran.
Oui. Tout à l'heure, Arnaud de Volet nous a parlé de l'isolement des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que depuis que les États-Unis sont isolés, d'autres pays tels que la Syrie sortent de l'isolement et mettent fin à des décennies de guerre et d'isolement et de sanctions.
En février de l'année passée, nous étions dans un monde dominé par l'Occident. L'OTAN du Proche-Orient et l'OTAN du Pacifique, qu'on appelle le Quad, dominaient la planète, dominaient l'économie, c'était la globalisation. Le dollar dominait financièrement le monde. Aujourd'hui, c'est terminé. Le bloc américain occidental, il représente moins de 20% de la population mondiale. Les Américains, évidemment, ont perdu beaucoup de choses. L'un des buts de guerre de Vladimir Poutine, ce n'est pas seulement des enjeux régionaux en mer Noire, c'était de mettre un fin au nouvel ordre mondial qui était né en 1991.
Arnaud de Velay, est-ce que vous partagez l'avis de Luc Michel quand il parle donc d'un nouvel ère dans la région?
Oui, absolument. Et je pense que, encore une fois, oui, l'opération militaire spéciale russe Ukraine depuis son départ, c'est un accélérateur historique. Et en cela, ça a complètement rebattu les cartes de la géopolitique internationale, à commencer par l'Asie occidentale. Avec effectivement, alors qu'on parlait d'une espèce d'accord bilatéral, de normalisation entre l'État sioniste et l'Arabie saoudite, le prince héritier a su lire, si je puis dire, l'évolution de la situation et complètement prendre à revers les experts en se réconciliant avec la République islamique d'Iran, et ce faisant, en s'orientant, en faisant le pivot vers ce qui semble être plus que jamais une diversification de l'économie saoudienne et un refus d'être complètement dépendant des États-Unis par rapport à l'augmentation de la production de pétrole, l'Arabie saoudite s'affirme comme un État vraiment indépendant. Alors, certes, on a pu voir encore des restes, des vestiges de cette relation un peu de vassal de l'Arabie saoudite vis-à-vis des États-Unis, dans le sens où on a vu, alors c'était complètement ahurissant cette séquence, Zelensky qui venait en personne aussi assister, donc faire son discours de où il allait encore demander des sous et de l'armement ou du soutien diplomatique auprès de la Ligue arabe, et je dois dire que c'est vraiment tombé comme un cheveu sur la soupe. Mais malheureusement, je pense que c'est quelque chose que Riyad a dû être un peu plus ou moins forcé à composer avec la situation vis-à-vis des États-Unis. Et donc, voilà, ils ont concédé à ce que Zelensky participe à ce sommet. C'est un peu dommage, mais bon, on peut comprendre aussi peut-être la position d'équilibriste qui fait que voilà, s'il doit y avoir un marqueur aujourd'hui d'un vestige de dépendance vis-à-vis des États-Unis, c'est pour qu'un individu peu fréquentable comme Zelensky soit amené à participer à un événement qui, somme toute, ne le concerne absolument pas.
Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie? Monsieur Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
C'est comme les nazis en 1940, les Américains et l'OTAN croyant leur propagande. Si vous écoutez les médias de l'OTAN, vous voyez ce qu'on appelle de la propagande noire, c'est-à-dire un monde virtuel dans lequel l'Occident contrôle encore le monde et que la Russie serait en train de faire. Mais en faisant leur grand effroi, les Américains s'aperçoivent qu'ils sont lâchés par tout le monde. Le Proche-Orient, l'Afrique, l'Asie, les Chinois, les peuples d'Indonésie, les BRICS, les non-alliés, c'est 80% de la population mondiale qui est pour le nouvel ordre mondial multipolaire.
Absolument. Luc Michel, certains pays voient cette visite de Bachar Assad en Arabie saoudite d'un très mauvais œil et ne souhaitent naturellement pas le rapprochement de la Syrie avec des pays arabes. Et est-ce qu'il n'est pas temps qu'ils admettent et qu'ils se soumettent à ces changements?
Ben écoutez, l'un des buts de guerre des Américains dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'était de liquider la Syrie massive. Ils ont réussi avec Kadhafi, mais ils ont échoué avec les Assad. Mais leur but, qui était décidé depuis 2003, c'était d'en finir avec la Syrie. On a longtemps présenté la Syrie comme la victime. Et le camp qui avait perdu le printemps arabe, aujourd'hui, on voit plus de 10 ans après que la Syrie a gagné le printemps arabe et que les Américains ont perdu. Et le deuxième point, évidemment, c'est l'émergence en vos régions de l'Iran comme la grande puissance régionale. L'Iran qui est la plus proche alliée à la fois de la Russie et de Bachar el-Assad.
Monsieur De Vollet, tout à l'heure, a parlé d'une réunion qui s'est tenue l'année dernière à Jeddah, qui avait pour but d'isoler l'Iran. Et bien sûr, ça a été un échec total, car après un an, l'Arabie saoudite s'est rapprochée de l'Iran, ainsi que d'autres pays. Que pensez-vous, Monsieur Luc Michel?
Mais comme je vous l'expliquais, les Occidentaux croient au monde virtuel de leur propagande. Ils pensent donc que leurs anciens alliés sont encore de leur côté. C'est typique en Afrique, où ils ont perdu la plupart de leurs alliés. Et c'est encore plus vrai au Moyen-Orient. Dès lors, ils tentent des gesticulations diplomatiques qui sont sans sens et qui ne prennent pas compte de la marche du monde.
Arnaud De Vollet, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, effectivement, c'est un changement de paradigme total qui apparaît sous nos yeux et qui prend maintenant une forme de plus en plus concrète. On peut penser que c'est une séquence historique qui se termine. Maintenant, par rapport à votre question, est-ce que certains de ces États qui ne reconnaissent pas ou qui voient d'un mauvais œil la réintégration de la République arabe syrienne dans le concert au moins régional, si ce n'est international, de manière plus ou moins officielle, parce que c'est vraiment, pour moi, je pense, ça marque vraiment la fin officielle de la séquence dite des printemps arabes. Je pense que, oui, on peut s'attendre à ce que les États-Unis s'arc-boutent sous l'égide des néoconservateurs avec cette doctrine Jeffrey, donc, qui consiste à effectivement réactiver une espèce d'armée en Syrie, ce qu'on entend maintenant, avec des restes de l'État islamique takfiriste, et on peut penser qu'ils ne vont pas lâcher le morceau. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils vont se retrouver complètement isolés. Ils sont déjà isolés. Je pense qu'ils sont les seuls à ne pas l'avoir réalisé. Les Israéliens, bien sûr, pour des raisons historiques, ont un partenariat extrêmement serré avec les États-Unis. On peut penser que ces deux pays-là vont essayer de continuer à faire dérailler les choses. Mais sur le long terme, je pense que tôt ou tard, les problèmes à l'intérieur de ces deux pays respectifs vont faire en sorte que les ressources déployées à l'extérieur seront rendues, si je puis dire, un luxe qu'ils ne pourront plus se permettre d'entretenir. Et la fin est proche, je pense, pour les États-Unis, avec un défaut sur la dette qui s'annonce d'ici quelques jours maintenant, peut-être 2 semaines. Visiblement, le système est à bout de souffle. Et pour ce qui est d'entité sioniste, on voit aussi un système à bout de souffle politiquement. Les gens n'y croient plus du tout. Et je pense que les semaines, les mois et peut-être les 18 mois à venir vont être porteuses de beaucoup d'enseignements pour ceux qui observent la situation politique à l'intérieur de ces deux États.
Absolument. Luc Michel, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux changements juste après cette nouvelle réunion de la Ligue arabe avec la présence de la Syrie?
Bien entendu, nous sommes face à l'échec total des faux printemps occidentaux. Le printemps arabe de 2011, le printemps africain de 2014, parce que l'Afrique est également concernée, la nouvelle politique africaine de Trump en 2018, ce sont des échecs globaux. Aujourd'hui, le but des Occidentaux qui était de remanier leur politique, ce qu'ils appellent le Grand Proche-Orient, c'est-à-dire une zone qui va du Maroc jusque le Caucase, eh bien, c'est un échec global. Dès lors, évidemment, il faut s'attendre à ce que les Américains et les sionistes fassent de la résistance. Ils ont peu de chances historiques d'aboutir.
Arnaud De Vollet, votre point de vue, qu'est-ce qui va sortir de cette réunion de la Ligue arabe? Et il faut s'attendre à d'autres changements?
Je pense que nous allons assister à un renforcement de cette nouvelle donne régionale avec un pivot vers l'Eurasie. Je pense que avec la grande réconciliation entre Téhéran et Riyad, c'est un axe au niveau de la sécurité et des investissements. On entend maintenant des nouvelles qui portent sur des investissements massifs des deux côtés, et je pense que ça va jouer un rôle d'accélérateur pour le développement de la région. Ça va permettre aussi peut-être une ouverture au niveau de la culture, de la recherche, et tout ça, ça peut être que bénéfique pour une région qui a subi des tentatives de déstabilisation depuis tellement longtemps que on ne peut que se réjouir de l'accélération, de la rapidité avec laquelle le paradigme est en train d'évoluer, et avec les grands frères, si je puis dire, les grands partenaires que sont la Russie et la Chine dans l'élaboration de cette nouvelle réalité géopolitique qu'est l'Eurasie. Je pense que nous pouvons être optimistes quant aux années qui s'annoncent.
Luc Michel, est-ce que vous partagez l'optimisme de Arnaud de Velay? Monsieur Luc Michel, est-ce que vous partagez l'optimisme?
Je partage l'Eurasie et Thomas. Le but de la géopolitique américaine, qui est d'empêcher l'unification de l'Eurasie, il y a d'ailleurs une autre marque que la Syrie, c'est l'Azerbaïdjan. La construction du chemin de fer Iran-Russie qui aboutit après d'Astana en Azerbaïdjan, c'est l'élimination des Occidentaux dans le Caucase. Ce n'est pas en parallèle avec l'élimination des Américains au Proche-Orient.
Oui. Arnaud de Velay a parlé de l'accélération historique. Il a évoqué la crise ukrainienne comme une accélération donc historique dans les affaires de la région. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, tout à fait. Le problème des Américains, c'est qu'ils ne sont plus seulement face à la Russie. Ils sont face à la Chine et ils sont face à l'Iran, c'est-à-dire à trois grandes puissances unies. Aujourd'hui, évidemment, les Américains, c'est un adversaire trop grand pour eux.
Oui. Et Arnaud de Velay, est-ce que l'Iran est trop fort donc comme un allié important de la Russie dans la région? Donc vous êtes d'accord qu'on est vraiment dans une nouvelle ère dans la région, avec bien sûr la superpuissance de l'Iran dans la région, dont la Syrie? Arnaud de Velay.
Oui, absolument. Oui, absolument. Avec sur le triomphe de la Syrie, c'est aussi, une page des relations géopolitiques qui se tourne, puisque pour la première fois depuis les accords de Sykes-Picot, on pourrait dire, une puissance régionale a tenu tête aux Occidentaux, a refusé de sacrifier ses idéaux et ses principes ses allégeances et ses alliés. Et c'est surtout ça qui restera dans, je pense, l'esprit collectif des peuples de la région. C'est que la seule solution, la seule voie possible, c'est la coopération, la solidarité et l'allégeance au principe, on va dire, au principe islamique. Parce que c'est quand même l'islam qui a structuré beaucoup, avec le panarabisme, la situation que l'on voit maintenant se développer. Et donc, tout reste à faire maintenant, mais c'est qualitativement un pas extrêmement important qui vient d'être franchi, parce que ça donne à l'ensemble des peuples de la région un sentiment de fierté retrouvée et d'optimisme quant à leur capacité à pouvoir rivaliser avec n'importe qui, pour peu qu'ils mettent de côté leurs petites disputes occasionnelles et se concentrent sur les intérêts globaux bien compris des uns et des autres.
Luc Michel, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que la Syrie est en train de cueillir les fruits de la résistance d'une décennie donc de guerre?
Écoutez, la Syrie a résisté merveilleusement. Malheureusement, au moment où vous achevez la Libye de Kadhafi, s'effondrait. Le but des Occidentaux dans les printemps arabes, c'était de retourner géopolitiquement. Vous savez que les printemps arabes au début, c'est une expression du français Benoît Méchain. Il parlait du bas syrien, justement, de tous ces peuples arabes qui étaient en lutte pour le panarabisme. aujourd'hui, la volonté occidentale qui a été manifestée au cours des 15 dernières années de renverser le cours des printemps arabes, c'est un échec. Le vainqueur, évidemment, c'est la Syrie, c'est l'Iran, ce sont les gens qui sont du côté des peuples en lutte pour leur unité et leur liberté.
Eh bien, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et un grand merci à Arnaud Develet, juriste international, expert de questions internationales, qui nous a accompagnés depuis Moscou. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La miniature persane. L'art visuel safari. La naissance de la peinture réaliste s'accompagne de l'évolution de la miniature vers un style plus expressif par rapport aux œuvres d'un Behzad. La floraison de cet art voit le jour dans les années de règne de Shah Abbas 1587-1628. Sa capitale Isfahan est devenu sous son règne un grand chantier de construction avec de grandes places destinées aux jeux, des édifices remarquables comme la mosquée royale avec une coupole turquoise, des arabesques et le palais Ali Rapou, depuis lequel on pouvait contempler les jeux. En peinture, la représentation réaliste de la figure humaine devient populaire. Mais le déclin de la miniature est aussi à remarquer pour la première fois. Les Safavides développèrent une technique sophistiquée pour la fabrication des textiles et des tapis en soie et en velours. Portant des dessins finement travaillés, exprimant les scènes de chasse, réputées au-delà des frontières du pays. En architecture, la dynastie Safavide posa le problème de la construction urbaine, Isfahan Razvin, avec la création des boulevards et des parcs. L'architecture se distingue en imposant un décor massif et luxuriant. Bigarré et polychrome des façades, des dômes corpulents couvrant un intérieur chargé de motifs floraux multicolores. Des pavillons et portiques, des colonnes en bois donnent sur des jardins et des canaux. Isfahan, ou la capitale iranienne du XVIe siècle, voit des ponts permanents et des établissements de commerce, des bazars couverts, des caravansérails où il y a des pièces séparées pour les gens, les animaux et les biens, ainsi que d'autres services routiers. Dans le domaine des arts visuels, le XVIe siècle voit la floraison de la miniature de Tabriz. Vers la fin de ce siècle, l'école d'Isfahan s'impose, se caractérisant par la recherche de nouveaux moyens d'expression. Elle n'est plus une illustration ornementale des livres et sera présentée peinte sur des morceaux de papier constituant chacun une feuille dans un album. Les artistes exposent l'univers intérieur des hommes. L'influence de l'art européen se remarque notamment dans l'utilisation de jeux d'ombre et de lumière ou de la représentation de scènes avec des personnages en costume européen. Or Reza et son successeur Reza Abbasi réalisèrent des portraits individualisés spécifiques des personnes âgées. Les arts décoratifs voient les expériences européennes appliquées au XVIe, XVIIe siècle. C'est une nouvelle croissance où l'art le plus luxueux est celui des tisseurs de tapis travaillant dans les ateliers de la cour safavide. Au milieu du XVIe siècle, les motifs floraux accompagnés d'images d'oiseaux, de cerfs et de papillons dominent.
Les couleurs favorites sont l'orange, le rose et l'azur, ou l'argent qui couvre des teintes dorées ombragées. Des images de fleurs et d'animaux abondent sur les taffetas et les étoffes en velours. Les motifs ont été empruntés à la poésie et à l'histoire et renvoient notamment à l'esprit de la miniature. Le tapis, ou l'art sublime des Iraniens, dont les premiers exemples remontent au 1er siècle avant notre ère, atteint son apogée au 16e siècle. À la fabrication des tapis participent les meilleurs artistes et tisserands du pays. Figurant la diversité des motifs et la richesse des couleurs, ils sont pourtant soumis à un rythme strict. Encadré généralement par une frontière, le champ central des tapis est rempli d'ornements de façon uniforme ou avec un médaillon au centre. Les motifs des tapis en velours et en laine sont des plantes, hisperons, ou empruntés par les arts visuels, Kerman, etc. Rappellent souvent les miniatures et les enluminures, quoique inférieures à elles dans la richesse des couleurs. Les principaux motifs sont ceux d'animaux, de chasse, de jardin et de paysage. Des tapis en forme de vase sont tissés avec un ornement floral montant tout autour d'un vase. Les couleurs jaune et orange sont mélangées au fil d'or et d'argent. Les centres majeurs de tapis sont à l'époque Krashan, Ispahan et Yazd. L'art de la céramique connaît aussi un développement considérable et crée des motifs visuels comme les paysages et les fleurs. Le plus grand centre de poterie est la ville de Kashan, produisant des tuiles et des carreaux, ainsi qu'une variété d'objets métalliques comme les médaillons pour décorer les surfaces lisses et polies. Au XVIe siècle, la poésie est très populaire dans tout le territoire de l'Iran et de l'Asie centrale, enrichissant l'art de la miniature en présentant des thèmes nouveaux. C'est le début d'un développement rapide dans toutes les écoles de peinture iranienne. L'école de miniature de Tabriz constitue un exemple de la maîtrise graduelle et accomplie par l'artiste de son imagination, et ce en vue de créer l'espace organique d'une scène ou d'un paysage complexe. Les peintres décrivent soigneusement les constructions architecturales, la nature, etc. Déjà, les figures humaines ne sont plus statiques, mais en mouvement et plus actuelles. L'école de Tabriz connaît son apogée dans la première moitié du XVIe siècle avec la venue au pouvoir des Safavides. Les maîtres de cette école s'appuient sur les traditions pittoresques locales, tout en s'imprégnant dans leurs expériences d'autres écoles de miniature du Moyen-Orient. En 1522, Kamaleddin Behzad devient le maître de la bibliothèque royale. Parmi les maîtres les plus élevés de cette école figurent Sultan Muhammad, Mirza Ali Agha Mirek, Mir Sayed Ali Sadir, Bey Afshar, etc. Chez les artistes de l'école de Tabriz, nous pouvons trouver la combinaison d'une tendance décorative arrivée à sa maturité et un art visuel sublime. Le paysage n'est pas traité comme un fond insignifiant, mais comme une partie organique de la composition. Un intérêt se développe par ailleurs pour la vie quotidienne des gens et les détails de leurs habitats. Ils y sont décrits dans un rythme recherché et au sein d'un système de coloration différent de leurs prédécesseurs. Parallèlement aux miniatures des livres, l'école de Tabriz produit des miniatures sur feuilles séparées, en particulier des représentations de jeunes nobles. Le déclin de l'école de Tabriz commence avec le transfert de la capitale des Safavides à Razvin, puis à Ispahan. Outre leur intérêt particulier pour les figures humaines, les artistes s'efforçaient de représenter sensations et parfums à travers des couleurs vives et des lignes souples, aux côtés des motifs tels que ceux d'un jardin printanier avec les arbres en fleurs, une pelouse et le bord verdâtre d'un cours d'eau, des édifices, des motifs floraux et géométriques, des bijoux et des ornements. Tout cela formant un contexte décoratif au sein duquel se déploie le thème principal. L'école de miniature d'Ispahan a été fondée au début du XVIe siècle. à la cour de Shah Abbas Ier. Cette école a pour caractéristique principale l'utilisation de chevalets, la virtuosité dans le travail au pinceau et sa technique des couleurs légères. Reza Abbasi. Elle produit, en parallèle à l'illustration de livres, des miniatures et des portraits de gens rassemblés dans un album et sur des feuilles séparées. Les miniatures de cette école perdent néanmoins beaucoup de leur éclat multicolore et de planéité par rapport aux miniatures iraniennes précédentes. L'importance principale est accordée à la préparation des dessins, les coups de pinceau libres, l'utilisation de couleurs légères, le concept du volume et la vitalité des mouvements. Malgré ces innovations, elle conserve néanmoins les caractéristiques traditionnelles de la peinture iranienne, dont le travail minutieux sur les détails, l'utilisation extensive de l'or dans l'arrière-plan ainsi que dans l'ornement des vêtements. Moïn Moussavi, 1617-1708, est l'un des miniaturistes les plus talentueux et les plus prolifiques du XVIIe siècle. Étudiant de Reza Abbasi, la plupart des œuvres de Moussavi sont des illustrations de manuscrits, dont celui du Shahnameh de Ferdowsi.
Thank you.